Eh bien, oui, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir depuis Nîmes. Et j'ai eu le privilège à nouveau aujourd'hui d'aller visiter la Tour de Constance. Et il y a ce poème d'Antoine Bigot hein, de Nîmes, justement, qui m'est revenu à l'esprit, qui dit dans enfin, je pense que c'est le dernier couplet, Ah, que devant cette ruine, un autre passe insouciant. Mon cœur bondit dans ma poitrine, tour de Constance, en te voyant. Et même si ça fait X fois que j'ai le privilège du Seigneur de voir cette tour, eh bien, le sentiment est toujours le même. Je suis ému de souvenir de tout ce que nos sœurs huguenotes ont traversé là-bas. Alors, je me réjouis de pouvoir être avec vous par la technologie depuis le sud de la France. Et puis, ce soir, nous entrons dans une partie de texte qui est assez compliquée et donc qui va demander peut-être une attention un peu plus soutenue de votre part. Et d'ailleurs, pour la seconde partie de cette soirée, il n'y aura pas de PowerPoint parce que c'était trop difficile pour moi de sélectionner un mot-clé ou une expression à mettre qui, en bout de ligne, je pense, ne pourrait pas rendre justice à tout le verset qu'on doit considérer. Et même avec cette approche verset par verset, il y a un langage tellement soutenu, compliqué, qu'il faut maintenant aller dans les détails et regarder même pratiquement mot à mot certains versets de cette section de ce soir. Alors, pour la première partie, je vais compléter la structure du PowerPoint qui avait déjà été entamée la dernière fois. Et puis, nous allons reprendre maintenant au chapitre 2, verset 12. 12 à 16 d'abord, qui nous introduit le deuxième témoin, c'est-à-dire un témoin comme si on était en procès contre l'homme où Dieu est le juge, eh bien, la condamnation va bientôt résonner. Dans le chapitre 3, la déclaration, le verdict final, l'homme est coupable, eh bien, il y a des témoins hein, qui se présentent en cour et on a déjà vu la connaissance générale de Dieu dans la création, en fait. Et puis, on a vu aussi la connaissance et où on va voir la connaissance et on voit la conscience aussi maintenant dans le bloc des versets 12 à 16. Donc, il y a ces trois témoins. Je ne me rappelle pas si la connaissance, on l'a déjà vue ou si on le voit ce soir. J'ai tellement la tête remplie de choses à dire sur cette section que je suis même un peu confus. Mais voilà, on a la connaissance, on a la conscience, on a aussi la création qu'on a vue au départ. Alors ce soir, on sera dans ce bloc en particulier de la conscience pour la fin du chapitre 2 et on verra finalement la condamnation qui tombe. Mais prions d'abord pour remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Notre Dieu et Père, nous te sommes tellement infiniment reconnaissants pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir être ensemble, d'ouvrir ta parole ensemble, de l'étudier ensemble. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole soit notre autorité dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous croyons, que nous puissions, Seigneur, nous attacher à toi plus qu'à toute autre chose ici-bas. Parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur. Nous te prions de bénir les quelques moments que nous passons dans ces chapitres 2 et 3 des Romains, et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Et je vous invite maintenant à prendre vos Bibles et à les avoir tout près de vous, parce que même avec le support du PowerPoint, ce sera utile de me suivre avec votre Bible. Préférablement, si vous avez une Darby, parce que le texte que j'utilise est une traduction personnelle du grec, mais qui ressemble beaucoup plus à Darby que n'importe quelle autre version française, puisqu'il était très, très littéral et très précis, hein, très près du texte. Mais si vous avez une autre version entre les mains, ça va aller aussi, mais vous allez certainement noter quelques différences importantes. Alors, allons-y d'abord avec le verset 12 que je vous présente dans cette traduction littérale. Et puis après, je vais commenter sur les mots du texte. Et vraiment, c'est pas à pas. Vous avez besoin de votre Bible ce soir. Et comme je l'ai dit, ce sera une attention un peu plus soutenue de votre côté. Verset 12. Car tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, c'est évident que le mot-clé dans ce passage, c'est la loi. Mais on voit qu'il y a quatre expressions dans ce seul verset-là qui incluent le terme loi et qui n'ont pas exactement le même sens. Il y a des nuances importantes dont on a déjà sans la loi deux fois dans la première partie du verset et ensuite on a avec la loi et par la loi à la fin du verset. Mais le point central de tout cela est le péché de l'humanité et ce qui fait que l'homme est déclaré coupable. Et l'homme, j'entends bien entendu l'humanité. Et le péché dans l'Écriture, ben, c'est un manquement à l'égard de ce qui est juste. C'est tout ce qui est mal d'un point de vue social, moral ou même spirituel. Et souvent, on a présenté de façon graphique le péché comme un archer qui, plutôt que de viser dans la cible avec, tu vois, la flèche là, direct devant lui, tac, dans la cible. Ben, c'est comme s'il tirait par là. La cible est devant, puis paf, il tire par là. Ben, c'est un peu l'image de hamartano qui signifie ben, manquer carrément la cible. Et donc, c'est un manquement, mais cette fois à l'égard de ce qui est juste du point de vue de Dieu. Eh bien, si l'homme a péché sans la loi, c'est-à-dire, si l'homme a péché sans avoir part à l'alliance de la loi mosaïque, parce qu'il n'est pas juif, parce qu'il n'en fait pas partie, eh bien, le texte dit qu'il va périr dans le sens qu'il va être jugé et condamné sans la loi. Et sans la loi ici signifie sans être jugé, pardon, pour avoir transgressé la loi. C'est évident que Dieu est juste dans son jugement. L'homme est coupable, ça c'est indéniable, et Dieu sera juste dans son jugement. Alors si quelqu'un a péché sans avoir part à l'alliance mosaïque et donc sans la connaissance de tout ce que comporte cette alliance, Dieu dans son jugement ne va pas prononcer une condamnation et une culpabilité pour avoir transgressé la loi mosaïque. Il la connaissait pas. On ne peut pas transgresser une loi que tu ne connais pas du tout. Tu vois, c'est du point de vue, du moins, de la responsabilité devant Dieu. Eh bien, c'est d'ailleurs que la condamnation va venir. Alors, c'est pourquoi la suite du verset dit aussi tous ceux qui vont avoir péché avec la loi. Et dans ce cas-ci, ça signifie malgré la connaissance des exigences de Dieu dans l'alliance mosaïque ou dans ce contexte-là, eh bien, ils seront jugés ou déclarés coupables par la loi, c'est-à-dire d'abord par les normes parfaites de l'alliance mosaïque, mais aussi en tenant compte des transgressions de la loi mosaïque. Alors voilà pourquoi Dieu, dans son jugement, il sera parfaitement juste. Parce que voilà, si tu as péché sans la loi, eh bien, c'est sans accusation de transgression de la loi que tu seras jugé. Mais contrairement, si tu as connu la loi et que tu l'as transgressée, eh bien, c'est un aspect de la condamnation qui sera tenu compte lors du jugement de Dieu. Et là, au verset 13, je pense que nous avons vraiment une parenthèse qui est quand même immense et qui se termine probablement au verset 15. Ah, vous savez, parfois, j'ai bien étudié Darby et en particulier son travail de traduction, mais aussi sa manière d'écrire. Et on a souvent dit de John Nelson Darby qu'il insérait souvent des parenthèses à l'intérieur des parenthèses qu'il y avait dans les parenthèses. C'est vraiment dire que, voilà, sa pensée, il ne cessait jamais de la développer, et puis ça partait ici et là, puis il mettait des parenthèses dans des parenthèses. Eh bien, je pense que Paul est aussi comme ça, parfois dans ses lettres. Et dans ce passage-ci, on a une parenthèse qui débute au verset 13 et qui va se terminer au verset 15, hein, à la fin du verset 15, mais à l'intérieur même aussi, on trouve une toute petite parenthèse qui est au verset 14, qui fait simplement que préciser de qui on parle quand il dira ceux-ci n'ayant pas la loi sont une loi pour eux-mêmes. Le n'ayant pas la loi est de toute évidence une parenthèse qui fait simplement que rappeler de qui vraiment on parle. Ça démontre quelque chose. Quand on trouve des parenthèses comme ça dans le texte, et c'est pas toujours bien rendu en français dans les traductions, pas plus qu'en anglais non plus. Et dans le texte original, il n'y a pas de symbole de parenthèse, vous voyez, mais par la structure et la syntaxe et certaines règles de grammaire, comme l'emploi du hoti, qui signifie que ou parce que, eh bien, parfois le hoti est là simplement pour introduire une parenthèse. Alors, il y a certaines règles qui nous permettent d'établir ces parenthèses, et puis ça se voit même dans les commentaires. Alors, au verset 13, on lit ceci dans une parenthèse, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes auprès de Dieu. Mais, et traduit littéralement, mais les faiseurs de la loi seront justifiés. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi, ceux qui écoutent, mais les faiseurs, ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Alors, là, par contre, vous voyez à quel point il faut être prudent, parce que le texte pourrait suggérer à une première lecture que la justification vient par la mise en pratique de la loi mosaïque. Mais ce n'est pas du tout ce que le texte dit, parce que ce serait une incohérence majeure avec toute la doctrine de la justification. Alors, il faut bien comprendre que l'apôtre Paul est en train, dans sa parenthèse, de dire, voilà comment on distingue ceux qui sont vraiment justifiés de ceux qui sont condamnés. Ceux qui sont condamnés, ils font que écouter la loi, mais la transgressent constamment, tandis que les faiseurs de la loi qui sont justifiés, ben, ils obéissent à la loi comme ils le peuvent dans leur effort de plaire à Dieu comme vie chrétienne, parce qu'ils sont justifiés. Si on obéit aux principes de la loi mosaïque encore aujourd'hui, c'est pas pour être justifié, c'est parce que nous sommes justifiés. Et ça fait toute la différence. Et c'est pourquoi il faut très bien comprendre la parenthèse de Paul pour ne pas arriver à une doctrine erronée de la justification. Donc, les auditeurs sont ceux qui écoutent seulement, et puis les faiseurs sont ceux qui mettent en pratique. Mais les justifiés qui la mettent en pratique, ce sont ceux qui ont été déclarés justes par Dieu à cause de leur foi en Jésus-Christ et dans le sacrifice du Seigneur. Mais dans un sens peut-être plus pratique avec je dirais, avec la discussion de Paul, certains commentateurs pensent que, en fait, Paul est simplement en train de dire que les hommes, même qui ne sont pas sauvés, font parfois les commandements de la loi sans même avoir la loi. Et je crois que c'est vrai, que ça fait partie de l'idée de Paul, mais gardons à l'esprit que on ne parle pas de personnes qui seront justifiées en bout de ligne, mais peut-être que les faiseurs de la loi qui seront justifiés, ce sont ceux qui ne pourront pas être accusés d'avoir transgressé la loi, même s'ils sont accusables ailleurs et dans d'autres domaines et qu'ils sont déclarés finalement pécheurs. J'ai un petit peu plus de peine avec cette vision de Romains 2. À mon sens, à moi, Paul fait vraiment une nette différence entre celui qui est justifié et celui qui ne l'est pas. Mais en gardant l'idée de la première vision que je vous ai partagée, regardons le verset 14, par exemple. Car quand les nations qui n'ont pas la loi font par nature les choses de la loi, ceux-ci, donc en parenthèse, n'ayant pas la loi ou qui n'ont pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes. Que signifie ce verset-là? Eh bien, d'abord, les nations, en général, quand on voit ce terme-là dans l'Écriture, les nations, c'est un groupe de personnes qui partagent certaines affinités, donc qui ont des liens communs entre eux. C'est ainsi qu'on va définir le grec ethnos, le terme nation, duquel vient ethnique, par exemple. Mais ici, d'une façon particulière, on parle de peuples qui n'adorent pas le Dieu d'Israël, dans le sens qui n'ont pas la connaissance par alliance du Dieu d'Israël. Eh bien, quand des gens qui sont complètement étrangers à Yahweh et à Israël et à toutes les alliances que Dieu fait avec Israël, quand ces gens-là font par nature, c'est-à-dire dans l'ordre naturel des choses, cette expression parle pratiquement de ce qui est inné dans le cœur de l'homme. Et je crois que ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il nous approche lentement au concept de la conscience. Dieu a mis quelque chose qui est inné dans l'homme et qui l'amène à faire des choix entre ce qui est bien et ce qui est mal. Bien entendu, que cette conscience innée dans l'homme peut être modifiée par l'éducation, par l'expérience, par beaucoup de choses et de facteurs externes qui peuvent travailler, façonner cette conscience. Mais Dieu a mis dans le cœur de l'être humain une conscience qui le dirige et qui va le pousser à prendre une décision entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on parle vraiment d'un principe qui est à l'intérieur même de l'homme. Eh bien, c'est pourquoi Paul dit, quand les hommes font ainsi, alors qu'ils n'ont pas du tout la loi, eh bien, ils sont une loi pour eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Eh bien, c'est qu'ils démontrent que dans leur propre cœur, dans leur propre vie, il y a un principe. C'est dans ce sens-là qu'on lit le mot « ils sont une loi pour eux-mêmes ». Le mot « loi » a le sens d'un principe, d'une règle ou je dirais, d'une pratique morale bien établie. Il y a quelque chose d'inné en eux qui les pousse à faire le bon choix. Et la preuve est le verset 15. C'est l'explication qui suit. On lit le verset. Lesquels, c'est-à-dire les gens des nations qui n'ont pas la loi, démontrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience le confirmant et leur raisonnement s'accusant entre eux ou si s'excusant. Donc, soit s'accuser, soit s'excuser, mais il y a un travail qui se fait à l'intérieur, si je peux dire, du cœur humain, si je peux le présenter comme ça. Alors, ce que Paul parle ici, c'est ce qu'il y a dans la nature même de l'homme, et puis dans sa nature innée, ce que Dieu lui a donné le pousse à faire des choix. Mais à cause de l'éducation, à cause de l'expérience, il y a comme une lutte qui s'entame dans l'esprit et le cœur d'une personne, et Paul appelle cela les raisonnements ici, c'est-à-dire les conclusions que les personnes vont tirer dans leur manière de penser. Eh bien, ces raisonnements-là sont ici personnifiés comme des avocats de la défense et aussi de la poursuite, hein. Et là, tu vois, il y a les accusations, la défense de l'un et de l'autre. C'est juste une manière imagée de dire qu'il y a une lutte à l'intérieur de l'homme de façon naturelle pour choisir ce qui est bon et versus ce qui est mal. Et c'est pourquoi on a les expressions que je mets maintenant dans le PowerPoint, le cœur et aussi peut-être pour le résumer d'une façon globale, la conscience. Alors, ce sont des choses que Dieu a données à l'homme qui n'a pas la loi, qui ne fait pas partie d'Israël, mais qui l'amène aussi à devoir prendre une décision et qui confirme ou bien qu'il est condamnable sur un point ou alors s'il est justifié sur un autre point en faisant ce qui est juste. Et tout cela va être mis en lumière un jour, c'est-à-dire le jour où Dieu va juger tous les hommes. Alors, quand on lit les versets 12 à 16, ce qu'on a comme constat en réalité, c'est que Dieu est juste et que Dieu a donné à son peuple des alliances, entre autres l'alliance mosaïque, mais il a donné aussi à l'être humain cette conscience qui est innée en lui, ce que Paul appelle aussi faire les choses par nature, en suivant aussi les choses qui sont écrites dans le cœur, toutes ces expressions parle de ce que Dieu a mis dans l'homme de façon créationnelle, si je peux dire, naturelle, pour qu'il fasse de bons choix. Mais voilà, Dieu va juger un jour, et c'est ce que le dernier verset de ce bloc-là nous dit au verset 16, eh bien, au jour où Dieu jugera les choses secrètes des hommes selon mon évangile par le Christ Jésus. On se demande pourquoi Paul, il passe des actions, par exemple, à ce qui est commis, transgression ou pas de la loi, pour utiliser l'expression les choses secrètes. Et cette expression-là signifie, en fait, elle désigne tout ce qui est fait en privé, à l'abri des regards, voire même dans le cœur. Eh bien, parce que c'est là que ça commence. C'est le travail dans le cœur et dans la conscience, et les décisions sont d'abord prises dans le cœur. D'ailleurs, tout le mal que l'homme fait vient d'abord du cœur. Et c'est ce que Jésus a enseigné clairement dans l'Évangile, entre autres, selon Marc, Je ne suis pas très bon pour les références par cœur, mais il me semble que c'est Marc 7. Mais quoi qu'il en soit, vous vous rappelez, hein, c'est du cœur que sortent ceci, cela, etc. Et donc, ce sont toutes ces mauvaises choses qui viennent du cœur de l'homme. Eh bien, ce sont des décisions qui sont prises dans le secret, les choses secrètes des hommes. Eh bien, tout ça va être mis à jour au grand jour, hein, dans ce sens-là. Juger à la lumière du juste jugement de Dieu, un jugement qui est parfait. Maintenant, pourquoi Paul dit-il selon mon évangile? Pourquoi Paul dit-il cela maintenant? Il a parlé de condamnation et puis il a parlé de comment l'homme est déclaré coupable, qu'il ait reçu ou pas la connaissance de la loi, puisqu'il y a quelque chose d'inné en lui de toute façon qu'il doit l'amener à choisir et à faire le bon choix. Mais à cause du péché, il fait le mauvais choix. Alors pourquoi Paul dit-il selon mon évangile? Eh bien, le mot évangile ici, il a le sens, selon moi, du contenu doctrinal de l'Évangile. Et le message de l'Évangile comporte cet aspect de la discussion de Paul qu'il présente dans ses trois premiers chapitres, c'est-à-dire la condamnation. La condamnation est un message qui fait partie intégrante ou intégrale de l'Évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est même la définition étymologique du terme euangelion, hein, l'annonce d'une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle débute par une mauvaise nouvelle. Et c'est ce qu'on regarde ensemble dans ces trois premiers chapitres-là. Ça débute avec une déclaration universelle de culpabilité. Voilà pourquoi Paul dit, les hommes sont coupables, seront jugés par Dieu, parce que l'Évangile rappelle d'abord aux hommes qu'ils sont en attente d'un jugement. Et s'ils se tournent par la foi vers Christ, ils seront sauvés. Voilà pourquoi il termine ce petit bloc avec par le Christ Jésus, parce que c'est lui seul qui permet la solution au problème évoqué dans ces trois chapitres-là. Maintenant, on passe au verset suivant qu'on regarde dans une seule diapo, celle qui apparaît maintenant. C'est le verset 17, parce que là maintenant, on arrive dans un bloc où Paul va s'adresser en particulier aux Juifs et c'est un gros bloc de texte. Nous allons voir ici le verset 17, ensuite regarder les versets 18 à 20 et on terminera le chapitre avec les versets 21 à 20, à 29. Alors au verset 17, on lit ceci. Mais si toi, tu portes le nom de Juif et tu t'appuies sur la loi et tu te vantes de Dieu. Alors, on voit trois choses dans ce verset ici, et voilà le troisième témoin. Là, tout à l'heure, j'étais un petit peu mêlé dans mon ordre, mais la connaissance, c'est maintenant. Le peuple juif connaît Dieu, a la connaissance de Dieu par les alliances, par les promesses faites aux patriarches, parce qu'ils étaient les dépositaires des oracles de Dieu. Voilà, ils ont un témoin, mais vraiment là, lourd, hein, dans le procès, la connaissance de Dieu qu'ils ont reçue. Eh bien, voilà, on parle du peuple de l'alliance et dans les prétentions du peuple de l'alliance, parce que le peuple juif n'est pas prêt du tout d'admettre sa culpabilité. Au contraire, il se glorifie de Dieu, comme dit la version second. Eh bien, trois choses d'abord, et on va en voir trois autres dans les versets 18 à 20. D'abord, il se donne le nom de juif. Qu'est-ce que ça signifie se donner le nom de juif ou porter le nom de juif? Le nom de juif ici signifie toi qui démontre un attachement traditionnel, culturel et cultuel aux traditions mosaïques et rabbiniques. Je suis juif, je possède les alliances. Voilà dans quel sens ici on voit qu'il se donne le nom de juif. En fait, c'est comme tu t'appuies sur le seul fait que Dieu s'est révélé à ton peuple à travers des promesses, des alliances, et tu dis, voilà, c'est suffisant. Fils d'Abraham, on est sauvé. C'est pourquoi Paul dit, tu te reposes aussi sur la loi, c'est-à-dire sais, reposer peut avoir le sens de s'appuyer sur quelque chose, tu vois, on s'appuie. Et donc, c'est comme si on faisait un socle avec la loi mosaïque et l'alliance de la loi mosaïque, ou, je sais pas, un appui pour dire, ah, je suis stable, hein, j'ai rien à craindre. Mais le verbe appuyer qui est utilisé ici, ou alors se reposer, a le sens aussi d'aller plus loin que cela, mais de chercher à trouver en cela, dans les promesses, alliances et tous les privilèges de Dieu envers Israël, trouver la paix intérieure. Toi qui penses trouver la paix intérieure, tu la cherches parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'échappe, mais tu t'appuies là-dessus, puis tu te dis, bon, ça va, au point même de te glorifier de Dieu. Et ce verbe-là, se glorifier, en grec, hein, il a, c'est toujours le même mot, mais il a deux sens totalement opposés. Selon le contexte, le verbe se glorifier ici, que moi je préfère le traduire par deux verbes différents, se vanter ou alors être satisfait ou être heureux ou se réjouir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est soit se vanter ou être arrogant ou se réjouir ou être satisfait. Donc, ici, le sens serait clairement se vanter, être arrogant. Ici, on parle donc d'un verbe qui peut avoir la connotation d'une attitude très orgueilleuse et qui est négative, hein? Ou alors il peut avoir le sens ou la connotation positive d'éprouver un profond sentiment de joie pour quelque chose qui a été accompli. De toute évidence, c'est le sens négatif qui est ici. C'est pourquoi on traduit par il se vante de Dieu ou il se glorifie de Dieu, mais dans un sens péjoratif. Et même, qu'est-ce que ça signifie se glorifier, pas en Dieu, mais de Dieu? Le texte nous amène à comprendre qu'il s'agit de se glorifier ou se vanter de sa connaissance de Dieu. Moi, je me vante de Dieu parce que moi, je connais Dieu, tu vois. Et l'apôtre Paul dit, c'est un pas progressif vers une déclaration de culpabilité aussi pour le Juif, malgré tous les privilèges reçus. C'est ce que Paul fait avec plus de détails dans la section des versets 18 à 20 maintenant. On lit le verset 18. Et tu connais la volonté et tu approuves les choses qui valent mieux, entre parenthèses, étant instruit par la loi. Tu connais, dans le sens que tu es bien au fait de quelque chose. Tu connais la volonté, et la plupart des versions vont ajouter de Dieu. Et je crois que c'est juste aussi parce qu'on parle bien de ce qui est conforme au plan souverain de Dieu. Imaginez, dans sa seule connaissance intellectuelle, le peuple juif sait ce qui est conforme au plan souverain de Dieu parce qu'ils ont les oracles de Dieu, ils ont la révélation des Écritures. Et ensuite, ils approuvent les choses qui valent mieux. Ça, c'est une traduction littérale. Ils apprécient la différence des choses. Ce serait l'autre manière de le dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tu peux examiner, tu as la capacité d'examiner les Écritures, et puis après avoir examiné, tu peux savoir qu'est-ce qui surpasse les autres choses en importance, c'est-à-dire quels sont les éléments essentiels de la loi mosaïque. Waouh! Cette phrase est une immense déclaration de culpabilité. Parce que quand Paul dit tu apprécies la différence des choses, c'est comme si tu ne peux pas ne pas être déclaré coupable parce que tu savais même ce qui était le plus important dans la loi mosaïque. Tu le savais par connaissance. Rappelez-vous ce que Jésus dit quand il accuse les pharisiens et les chefs religieux juifs de payer la dîme de toutes sortes de choses, mais de négliger complètement ce qui était vraiment important. C'est-à-dire d'avoir de la compassion, de la miséricorde, etc., de pratiquer des œuvres justes. Eh bien, les choses essentielles de la loi, les choses qui valent mieux, selon la traduction plus littérale ici, ou ce qui fait la différence, ben, il l'ignorait, mais volontairement. Il l'ignorait carrément volontairement parce que ils étaient instruits dans ces choses. J'aime bien cette parenthèse à la fin du verset 18, étant instruits par la loi. C'est comme si Paul disait, et pourtant, tu étais bien instruit par la loi. Elle te montrait vraiment c'était quoi qui était le plus important et tu ne l'as pas fait. Verset 19. Non seulement tu l'as pas fait, mais regardez l'attitude du juif religieux, moraliste, qui pense que le païen est condamné, qui va même penser qu'il est du fioul pour l'enfer, le païen, et que lui, son ciel est assuré. On parle toujours, bien entendu, c'est pas une façon péjorative ou mauvaise de parler des Juifs en général. On se comprend bien. On parle du Juif religieux de la période du Nouveau Testament. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se persuade d'être un guide d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est un parallélisme hébraïque. Ces deux phrases disent sensiblement la même chose, mais ce qui est important, c'est le verbe principal. Tu te persuades de quelque chose. Dans la ligne 6, dans la diapositive que vous voyez, c'est le troisième point duquel se vantait le peuple juif, s'imaginer pouvoir conduire et enseigner les autres. Mais s'imaginer, c'est fort, c'est tu te persuades, tu te crois toi-même. Dites-vous ça parfois. Des fois, on dit ça de certaines personnes qui mentent, des menteurs, hein? Ils sont tellement bons menteurs qu'ils se croient eux-mêmes dans leurs mensonges. Eh bien, Paul, il l'utilise un peu dans ce sens, vous savez, tu es convaincu au point d'être absolument certain de ce que tu dis quand c'est faux. Et pourtant, tu es convaincu. Le guide, hein, c'est de diriger les autres dans les décisions qu'ils doivent prendre. L'aveugle, c'est celui qui a l'incapacité de voir d'un point de vue spirituel. On comprend bien que ici, ce n'est pas de guider au verset 19 un aveugle d'un point de vue littéral, mais celui qui n'a pas de vision spirituelle. Et donc, tu te persuades d'être un guide d'aveugle, mais aussi lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Guide, lumière, aveugle, ténèbres. Et on comprend très bien par ce parallélisme que le Juif se vantait de pouvoir diriger les autres quand eux-mêmes, qu'est-ce que Jésus dit? Vous êtes des aveugles qui mènent des aveugles. C'est pas possible. Vous tombez dans la fosse, hein? Il n'y a aucune autre manière d'éviter cela. Donc, ils s'imaginaient être des guides et aussi des lumières d'après ce verset-là. Lisons encore le verset 20. Instructeur des insensés, docteur des petits-enfants, ça j'aime bien, avec une parenthèse ici. Ayant la formulation de la connaissance et de la vérité dans la loi. Vous voyez, Paul, là, il nous fait presque mal à la tête. Hein? On a des crampes de cerveau en lisant cette partie de texte parce que c'est difficile, c'est compliqué, quoi. Alors, un instructeur des insensés, quelqu'un qui peut corriger et discipliner. Hein? Les insensés sont les personnes qui sont ignorantes d'un point de vue spirituel. Un docteur, et puis c'est un autre mot que je mets en lumière ici, docteur et instructeur. Je les mets tout de suite tous les deux. Donc, un docteur, un enseignant, celui qui peut donner des explications aux autres pour leur dire comment ça fonctionne, tu vois. Et puis, voilà, qui se pense au-dessus. Parce qu'il a reçu la formulation de la connaissance et de la vérité dans la loi. Autrement dit, le Juif, c'est vrai, a reçu la révélation de Dieu et de ses plans de rédemption à travers les Écritures. Mais, Paul dit, c'est ce que toi tu penses. Tu vois, je ne veux pas revenir parce que le PowerPoint, je pense qu'il va m'embêter, mais on a vu six déclarations ou prétentions de la part des Juifs. Surtout en contraste avec les païens, quoi, et ceux qui sont non-juifs. Et Paul, il dit, toi, là, tu penses que c'est comme ça que tu es au-dessus et que voilà, toi, ça joue, hein? Tu es le guide, la lumière, l'instructeur, le docteur. Eh bien, à partir du verset 21, Paul a un tout autre message pour eux. Le juif est coupable. Le juif est coupable. Et bien entendu, le juif religieux qui refuse en fait l'essentiel de la véritable révélation de Dieu et pas ce qu'eux, ils s'imaginent être la révélation de Dieu. Voilà, et leurs agissements confirment qu'ils n'ont pas compris en réalité le plan de Dieu dans la rédemption et qu'ils n'ont pas compris pour eux-mêmes et encore moins pour les autres. Hein. Alors voilà ce que Paul dit au verset 21. Toi donc qui enseignes l'autre, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas commettre de vol, tu commets un vol. Verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Verset 23. Toi qui te vantes dans la loi ou qui te glorifie, comme on a parlé tout à l'heure, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et je crois que chaque fois, la réponse doit être oui. Bon, probablement que le juif, lui, ne va pas répondre oui, mais c'est la réponse qui était la seule, hein. À nouveau, il pense enseigner, instruire, il prêche aux autres quoi faire et ne pas faire, mais ils font le contraire. Les Juifs, oui, dérobaient parfois des choses, et en particulier, les chefs religieux juifs pouvaient faire cela simplement par le fait d'établir des règles et des lois. Vous savez, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Cette pauvre petite veuve là, qui amène deux petits sous là, puis les met dans le trésor du temple. Et puis là, les prédicateurs se servent de ce passage pour dire, voilà, il faut tout donner au Seigneur. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que ce texte enseigne. Ce texte enseigne qu'à cause de ces fichues traditions juives qui viennent des traditions orales rabbiniques qui n'ont rien à voir avec la véritable révélation de Dieu, cette pauvre femme, elle se privait de manger, elle mettait sa vie en péril. Et en fait, c'est une accusation, c'est un reproche qui est fait là-bas. Quel dommage, quelle tristesse pour cette pauvre femme. Et eux, ça va, ils ont du superflu, ils sont riches, ça déborde de partout. Mais cette pauvre femme n'a rien. Et tout ce qu'elle avait pour vivre, ben, à cause des lois et parce qu'on lui a inculqué, ah oh oui, il faut tout donner au trésor du temple. Et ben voilà, il n'a plus rien maintenant. Et voilà, il est dans une condition terrible. Voilà pourquoi tu commets des vols. Et c'était vraiment ça l'enjeu du problème. Le verset 22, ouais, il n'est pas trop facile, mais voilà, l'adultère, oh oui, il est aussi commis même chez les chefs religieux. Et vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de soi-disant chefs religieux dans je dirais dans toutes les religions et sectes du monde qui commettent des abus sexuels. Ça, ouais, c'est malheureux, mais voilà, c'est ce qu'on peut constater. Ils avaient aussi en abomination les idoles et commettaient des sacrilèges. Et le verbe commettre des sacrilèges en grec signifie littéralement vandaliser un temple afin de dérober ce qui s'y trouve, les idoles qui s'y trouvent. Et ça aussi, ça contenait une certaine marque d'irrévérence envers certaines choses qui devaient quand même être respectées d'un point de vue seulement de respect culturel envers les autres. Alors les Juifs n'hésitaient pas, en particulier peut-être ceux qui étaient itinérants et qui abusaient des gens qui étaient des autres nations à cet égard. C'est pourquoi Paul dit qu'au verset 23, eh bien, tu as beau te vanter, tu peux te vanter tant tu voudras dans la loi, mais tu déshonores Dieu parce que tu transgresses la loi. Tu dévies, tu violes la loi. Si tu manques totalement de respect envers Dieu, déshonorer Dieu, c'est grave, c'est fort, c'est manquer totalement de respect envers lui. Et quel est le résultat de tout ça? Non seulement Dieu est déshonoré lui-même par ta conduite, alors que ça aurait dû être tellement différent, mais maintenant, au verset 24, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. Comme il est écrit, et ce sera une citation de Ésaïe 52, verset 5, ce petit bout de verset. Bien, le nom de Dieu, c'est toute la personne de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, ce sont ses attributs et ce sont aussi ses œuvres. Alors, les gens ridiculisent Dieu et les plans de rédemption de Dieu à cause de cette mauvaise conduite, alors qu'on se vante de Dieu, en particulier là, bien sûr, on est dans le contexte du peuple juif, mais je vous assure que quand moi je lis ça, je me pointe moi-même, puis je me dis, dans l'Église, on ne fait pas mieux tellement souvent, et ça m'énerve, puis je me dis, pardon Seigneur, pardon. Pas les autres, je me place moi-même là-dedans. Pardon Seigneur que tant de fois une conduite peut être déshonorante pour ton saint nom et puis que l'Église ne soit pas coupable de cette façon. Verset 25, et là on entre dans un petit bloc là et je sais que ce soir c'est assez spécial là, mais je dois couvrir une longue partie de texte et puis Je vais prendre le temps de m'arrêter sur la culpabilité du juif en parlant de termes techniques et au sens figuré, la circoncision, l'incirconcision. Il faut comprendre ces termes-là dans le bloc qui va suivre à partir du verset 25. Mais d'abord, je vous mets à l'écran une petite définition. Au sens littéral, vous pouvez lire avec moi, la circoncision est à la fois le signe de l'alliance abrahamique au départ, hein, avant même l'arrivée de la loi, obligatoire pour tout juif. Donc ça, c'était avant la loi. Mais c'est aussi un acte cultuel dans l'alliance de la loi mosaïque qui était obligatoire non seulement pour le juif, mais aussi le prosélyte. Parce que là maintenant, c'était un geste symbolique qui devait communiquer un message. Et c'est ce qu'on lit dans la dernière partie de la définition. En lien avec l'alliance mosaïque, la circoncision est un symbole de l'engagement à obéir à tous les commandements de la loi. Même si c'était opéré par les parents, et puis même si, voilà, c'est un bébé, hein, et que la circoncision, elle n'arrive pas deux fois, elle est une seule fois, mais elle comporte ce double aspect sous l'alliance abrahamique, sous l'alliance mosaïque. Et puis voilà, c'était le signe, le symbole qui allait rappeler, surtout à l'enfant formé dans les traditions de l'alliance mosaïque, qu'il doit maintenant aussi obéir à la loi mosaïque. Chez les Juifs, on prenait conscience, ou du moins, on assumait cette responsabilité à partir de 12 ou 13 ans lors de la célébration du Bar Mitzvah, qui signifie fils du commandement. C'est là que, franchement, on devait mener une vie cohérente avec le fait d'être circoncis, donc sous ces deux alliances-là. Maintenant, c'est vrai que l'apôtre Paul utilise ici vraiment dans différents sens. Quand il dit au verset 25, je vais lire le verset, car vraiment, la circoncision sert à quelque chose si tu pratiques la loi. Mais si tu es un transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Et donc, le premier mot circoncision, c'est vraiment la circoncision physique dans la chair, symbole de ces deux alliances, comme vous le voyez dans la définition ici. Mais l'expression à la fin du verset, ta circoncision est devenue incirconcision, signifie simplement que tu es maintenant dans la même condition que celui qui n'est pas circoncis, c'est-à-dire qui n'a aucune part à l'alliance de la loi mosaïque. C'est comme si tu étais seulement un transgresseur qui n'est pas dans l'alliance de la loi mosaïque. Même si physiquement, dans la chair, tu es circoncis, si tu transgresses la loi mosaïque, tu agis et prouves que tu es un incirconcis en réalité, quelqu'un qui n'a aucune part aux alliances. Lisons le verset 26 pour poursuivre le raisonnement de Paul. Si donc l'incirconcision garde les exigences de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée pour circoncision? Ici, quand il dit l'incirconcision, il parle d'un non-juif. Donc, c'est une façon de décrire un non-juif. Eh bien, si un non-juif garde les exigences de la loi, c'est-à-dire qu'il obéit fidèlement aux exigences de l'alliance mosaïque, même s'il est incirconcis physiquement, ne sera-t-il pas compté comme circoncis? Et ici, c'est-à-dire, ne sera-t-il pas regardé comme quelqu'un qui obéit finalement à l'alliance malgré tout. Et la réponse est positive, hein? C'est une réponse positive qui était attendue ici. Alors c'est comme si Paul disait que le croyant non-juif, malgré son incirconcision physique, c'est-à-dire le symbole, hein, de l'obéissance à la loi, eh bien, s'il obéit à la loi, il se conduit réellement en accord avec la révélation de Dieu dans l'alliance de la loi mosaïque, alors que toi, tu es peut-être circoncis physiquement, mais tu n'es pas du tout en accord avec la révélation de Dieu parce que tu transgresses la loi. Continuons, verset 27. Et l'incirconcision, parenthèse, qu'il est par nature, en accomplissant la loi, ne te jugera-t-elle pas, toi, le transgresseur de la loi par la lettre et la circoncision. Wow! Là, je commence à avoir mal à la tête. Et vous, ça va? Vous suivez? Vous n'avez pas trop mal? C'est pas grave, on va y arriver, vous allez voir. L'incirconcision ici, c'est le non-juif croyant. Le non-juif croyant, il est incirconcis par nature, mais parce qu'il accomplit la loi, eh bien, lui, ne va-t-il pas, on dit ne va-t-elle pas parce que c'est l'incirconcision qui est le non-juif, mais croyant, ne va-t-il pas te juger, toi, le transgresseur de la loi par la lettre, c'est-à-dire l'ensemble des commandements de Dieu, et la circoncision, le symbole que tu devais obéir? Alors, toi qui avais reçu l'alliance de la loi mosaïque et qui as le bon symbole, tu n'agis pas du tout de façon cohérente, mais lui qui n'avait pas reçu l'alliance de la loi mosaïque et qui n'était pas circoncis physiquement, qui n'avait pas le symbole, il obéit pourtant à la loi. Paf, 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 paf. C'est comme si Paul est en train de ramasser, excusez, ça c'est québécois, c'est en train de mettre une baffe, je ne sais pas si ça se dit, je m'excuse si jamais je vous offense, mais c'est exactement ce qu'il fait, mais je me mets à la place d'un juif, tu vois, qui lit ça, qui n'est pas croyant, mais ou bien il réagit en disant, mais il est complètement malade, Paul, qu'est-ce qu'il dit là? Ou alors il se repent et il dit, mais franchement, j'étais dans les choux, quoi, je n'ai rien compris de la révélation de Dieu. Et regardez comment Paul termine, hein, car le juif. Ici, le juif, c'est le véritable fils d'Abraham. On ne spiritualise pas les termes, on fait simplement comprendre le sens symbolique de Paul. Car le juif, le véritable fils d'Abraham, c'est-à-dire le croyant qu'il soit israélite ou pas, eh bien, il ne l'est pas dans ce qui est manifeste, c'est-à-dire dans ce qui est apparent. Il parle de la circoncision physique. Ce n'est pas d'être circoncis physiquement qui change quelque chose. C'est ça le point de Paul. Alors, ni la circoncision elle-même, celle qu'il a vécue, est manifeste dans la chair, bien entendu. Autrement dit, Paul dit, c'est rien du tout d'être incirconcis. C'est absolument rien du tout. Le point, c'est d'être circoncis de cœur. Et ça, c'est la fin du verset 29. Et je sens que je vais avoir besoin d'une pause. Verset 29. Mais le juif est dans le secret et la circoncision est celle du cœur. Peut-être qu'on devrait rajouter le vrai juif, ou c'est-à-dire le croyant. C'est celui qui l'est dans le secret et ça signifie intérieurement, pas dans ce qui paraît. C'est dans ce sens-là, secret, intérieurement. Et ce n'est pas dans ce qui est manifeste, hein? Ce n'est pas dans ces choses-là, ce n'est pas dans ce qui est visible, c'est plutôt celle du cœur. Et quand on voit dans l'esprit, pas de la lettre, c'est la fin du verset, eh bien, c'est simplement une façon de dire que ça doit venir d'une révélation de Dieu au plus profond du cœur par le Saint-Esprit. Pourquoi Paul rajoute-t-il duquel, c'est-à-dire celui qui est justifié, hein? L'approbation ne vient pas des hommes, mais de Dieu, parce que la loi ne peut rien apporter d'autre que la condamnation. Parce que c'est impossible de lui obéir, même si tu as la circoncision physique, qui est le bon symbole, qui est le bon signe, tu ne peux juste pas. Alors, tu es hautement coupable, tu es condamné. Voilà, c'est ici que nous prenons une pause.
Merci beaucoup, Gilles, pour cet exposé passionné et passionnant. On sait tout sur l'incirconcision et la circoncision. Il y a plusieurs questions. Je te propose d'en prendre quelques-unes, notamment concernant l'évangile et puis le fait de croire ou ne pas croire. En 2024, il est difficile pour un homme de ne jamais avoir entendu parler de l'évangile. Alors, l'homme de 2024 est-il le même que l'homme des nations du temps de l'apôtre Paul?
Fondamentalement, oui, l'homme ne change pas, il est le même depuis la chute, il est pécheur, mais bien entendu qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que le niveau de culpabilité n'est pas le même, bien qu'il soit entièrement coupable devant Dieu. Et c'est pourquoi, quelque part, le jugement sera parfaitement juste parce qu'il sera basé Je dirais sur deux choses essentiellement. Je vais résumer ma pensée comme cela. L'homme sera jugé selon la mesure de révélation qu'il aura reçue et sera jugé selon ses œuvres, c'est-à-dire sa réponse à la mesure de révélation que Dieu aura donnée à chacun. Ça devient très évident par des textes où on voit que certains vont être jugés plus sévèrement que d'autres, en tenant compte de la mesure de révélation qu'ils ont reçue et la réponse qu'ils ont donnée à cela. Alors, l'homme de 2024 est essentiellement le même que Adam dans sa chute, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui interfèrent, ou disons qui peuvent ajouter ou changer peut-être son niveau de responsabilité ou de culpabilité. Mais une chose est certaine, il est pleinement pécheur, il est coupable et il n'y a rien, rien, rien à faire là-dessus. D'ailleurs, c'est l'objet de la suite, hein, chapitre 3, là, les 20 premiers versets vont dire à la fin, ben, que finalement, toute bouche va être fermée, quoi.
On a une remarque aussi d'un frère concernant ce que tu as exposé. En suivant cette partie, je comprends que le plus important, c'est de connaître Dieu, mais au-delà de tout cela, de pratiquer scrupuleusement ses recommandations. Il y a toujours un fil, une tangente sur laquelle il faut qu'on fasse un peu attention d'être. C'est le côté légaliste qu'on pourrait avoir dans la volonté de pratiquer la loi, même comme chrétien. Est-ce que tu pourrais peut-être un tout petit peu développer là autour?
Les chrétiens de l'Église aujourd'hui ne sont pas sous l'alliance de la loi en tant qu'alliance, mais toute la loi est pas, et moi peut-être que c'est une position très personnelle, subjective, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que toute la loi, elle a quelque chose de bien à nous enseigner comme principe. Et notre obéissance aujourd'hui à la loi ou au principe de la loi, ou alors à tous les principes moraux qui viennent de toute la révélation de Dieu antérieure à l'Église, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, les Évangiles, etc., sont des principes qui sont vrais dans nos cœurs, mais le principe d'obéissance n'est pas celui de l'engagement à respecter toutes les clauses d'une alliance, mais plutôt simplement de vouloir plaire à Dieu et d'obéir à sa parole. N'oubliez pas que Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Et ce n'est pas seulement le bloc éthique ou moral de la loi mosaïque qui est inspiré de Dieu pour les chrétiens de l'Église. C'est toute la loi, tout ce dont ça parle, même l'aspect cérémoniel qui est accompli par Christ à la croix, encore des choses à nous apprendre quelque part. Il y a des principes qui sont vrais dans tout cela, mais c'est vrai que voilà, on a de... C'est pas nécessairement que ça va nous donner, tu vois, des choses à faire et à ne pas faire. C'est pas tellement comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est simplement que par l'Esprit de Dieu, on comprend les principes qui sortent de sa révélation antérieure à l'Église et qui nous amènent à les mettre en pratique, tu vois. Mais dans ce qui ressort comme principe, moi, je ne crois pas qu'on soit appelé à obéir au commandement de la loi mosaïque en tant qu'alliance.
Merci pour cette précision. Une question qui me paraît aussi importante, est-ce que lors du jugement dernier, Dieu tiendra-t-il compte du niveau de connaissance pour ceux qui ont vécu sans avoir entendu l'évangile? C'est un frère africain qui pose cette question et dit particulièrement en Afrique, point d'interrogation. Tu as parlé de la nature, du cœur, de la conscience. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus
Ça, ce
pour ceux qui
sont
n'ont
les
pas
éléments.
vraiment entendu l'évangile?
Oui, en fait, et puis j'apprécie qu'on souligne en Afrique parce que ça, c'est l'aspect, tu vois, que je disais qu'il y avait des facteurs d'influence qui venaient dans l'éducation, mais aussi la culture, et il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Mais certainement, je le répète, Dieu va juger de façon juste les hommes selon la mesure de révélation, de connaissance qu'ils ont eue de Dieu. Et aussi selon leurs œuvres qu'ils auront accomplies. Il me semble que c'est les deux, peut-être les deux éléments de jugement qu'on peut voir et discerner dans les Écritures. L'aspect de la conscience et de la connaissance des choses ressort dans le chapitre que nous avons vu et ressort aussi des justes jugements du Seigneur Jésus sur les villes de Chorazin et Bethsaïda. Alors qu'elles avaient eu une connaissance supérieure à Sodome et Gomorrhe, alors oui, il y aura le crime de péché sexuel qui sera jugé, mais il y aura aussi un facteur lié à la connaissance.
Merci aussi pour cette réponse. Et puis on va venir sur la dernière question. Tu as parlé de cette fameuse veuve qui jette de pite dans le trésor du temple. Je pense qu'on a là une personne qui est probablement un petit peu perturbée par qu'est-ce que tu as dit. Donc c'est pas un exemple à suivre de jeter ces deux pites dans le trésor du temple.
Non, non, pas selon, pas dans ma compréhension, parce que quand je lis les principes financiers de l'Église dans le Nouveau Testament, ce n'est pas du tout ce que je trouve là. Jamais l'Écriture nous dit donne tout ce que tu as pour vivre, donne dans le sens, tu vois, tu sais, de même négliger des choses. Ça se peut que Dieu nous amène à prendre une décision aussi radicale dans certains cas, mais je ne vois pas là-dedans un principe financier pour l'Église. On est beaucoup plus engagé que cela. Cette femme aurait dû, tu vois, parce qu'après, qu'est-ce qui arrive avec elle? Elle doit mendier dans la rue. Elle doit être soutenue par quelqu'un quelque part. Si elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, alors franchement, son offrande à Dieu met non seulement elle-même, mais d'autres dans l'embarras que pratiquement, si je pourrais dire. Alors moi, je crois vraiment que ce texte-là est un reproche du fait des traditions rabbiniques qui réclamaient tout ce que tu avais, puis alors pour eux, voilà, tant qu'ils avaient tout et recevaient tout, la pauvre dame, elle n'a qu'à se débrouiller par la suite. Mais on est appelé plutôt par le Saint-Esprit qui vit en nous à placer toute chose et toute décision devant Dieu. Tu vois, c'est que nous, on est tellement Nathanaël ancré, inné en nous dans fais ceci ou ne fais pas cela, je pense qu'on préférerait tous recevoir une loi qui nous dirait donne tant ou donne ceci ou donne cela, un peu comme on fait avec la dîme, hein? Il faut qu'on donne 10%, mais peut-être que le Seigneur veut qu'on donne 60%, peut-être que dans certains cas, il veut qu'on donne 3%, peut-être que dans certains cas, il veut qu'on donne 100%, je ne sais pas, mais ce n'est pas un principe financier de l'Église de dire à des croyants, donnez tout ce que vous avez pour vivre à l'image de cette veuve-là. Moi, je pense qu'on fait erreur si on enseigne ça.
Le Nouveau Testament nous enseigne que tout ce qui tout nous est prêté finalement, tout appartient à Dieu. Et c'est dans un principe de dépendance de lui qu'on doit savoir combien donner.
Oui, et c'est plus difficile, Nathanaël, à mon sens, que de me dire. Eh bien, donne tant. Ah ben, si c'est tant, ou bien je le fais ou je le fais pas, ça termine là. Quand c'est fixe, ben, c'est une loi, tu le fais ou tu le fais pas, tu vois. Mais quand on est soumis à la dépendance, à la prière, à la direction du Seigneur, c'est un exercice de cœur.
C'est
C'est un
ça.
exercice de cœur dans la communion avec le Seigneur et c'est beaucoup plus engageant qu'une loi écrite sur le tableau, tu vois. C'est ce que je pense
On
finalement.
aime des fois mieux les lois que l'exercice du cœur.
Oh oui, je pense que oui. On est
N'est-ce
religieux,
pas?
alors ça.
Exactement.
Ouais.
Bon, on va pouvoir aller réfléchir à tout ça pendant notre pause et puis on se retrouve après que chacun ait pu prendre une petite
Son
boisson,
souffle.
quelque chose, et toi ton souffle. Allez, à bientôt.
Merci.